Alors aujourd'hui, nous allons partir sur une vertu fort particulière, puisque c'est celle de la mortification. Je rappelle quand même les trois premières. La simplicité qui est notre relation à Dieu. L'humilité qui est la relation à soi-même. Et la douceur qui est la relation aux autres. Nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Et alors la mortification. Ah oui, celle-là, là. Rien que le terme, ça nous agresse un peu, on n'aime pas ça. Il y a tout un... Comment on appelle ça ? Un inconscient collectif qui nous empêche d'être très à l'aise avec ça. Rien que le mot, la première chose qu'on entend, c'est mort. Et donc du coup, ça nous plaît pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus ? Et puis il y a tout un tas d'images qui viennent nous embrouiller parce que bien évidemment, si je vous dis mortification, il y a sûrement le cilice qui va arriver, la discipline, le fouet, enfin des choses un peu fortes, les pénitences. Alors j'ai pu découvrir en cherchant un peu à droite à gauche, bon ça remonte à loin, hein, au Moyen-Âge, et puis il y a eu l'apogée justement au 16e, 17e siècle, donc justement le siècle de Saint-Vincent. Avec des excès qui étaient vraiment phénoménaux. Figurez-vous que quand Saint-Vincent a rencontré Louise de Marillac, elle avait comme pratique religieuse d'avoir 33 actes de dévotion par jour pour honorer les 33 années de la vie du Christ sur terre. Vous imaginez 33 actes de dévotion ? Alors il y avait toutes sortes, hein, c'était la visite au Saint-Sacrement, il y avait le chapelet, il y avait la prière à la miséricorde, enfin voilà, il y avait tout un tas de prières. Et alors juste pour une petite anecdote, c'est que Vincent il a réussi petit à petit à lui faire tomber un peu tout ça en la tournant vers le service des pauvres. Voilà. Quand on est au service des pauvres, ça c'est une valeur sûre. Et puis il y avait aussi cette idée que la mortification, le corps était très mauvais. Et pendant des siècles, on nous a bassinés avec le corps est mauvais. C'est le lieu de toutes les tentations, c'est le lieu de toutes les dérives. Et donc il faut plus que maîtriser, il fallait mater son corps. Il y a un côté violent, même masochiste, qui était là derrière. Je pense que les plus anciens d'entre vous, sûrement au niveau de l'école, c'était aussi, il peut y avoir un peu de ça dans le style de l'éducation. Quand on vient au berceau, bien sûr, les gens ils nous parlent de leur jeunesse et tout ça. Et combien de fois ? Ah oui, ben moi j'étais chez les bonnes sœurs, moi j'étais pas très bonne, hein. C'était. En sachant tout de même qu'il ne faut pas trop le déconnecter de la réalité de l'époque. Parce que c'était tout le monde. C'était pas que dans les écoles catholiques qu'il y avait de la dureté. À l'école laïque, c'était pareil. Hein. C'était aussi dur. Ça marchait à la baguette. C'est tout. Donc, bizarrement, on retient beaucoup plus que quand on était chez les sœurs, c'était dur. Mais on se rappelle pas que quand on était à l'école laïque, c'était pareil. Donc, il y a un aspect culturel qui portait à ça. Il fallait... On disait, les enfants, c'est comme les bateaux, ça se gouverne par le derrière. Alors j'ai été chercher des définitions sur internet. Alors il nous est dit que la mortification est une pratique d'ascèse. Ah, ce mot là ça nous va de suite mieux. Mais d'ascèse religieuse qui consiste à s'imposer une souffrance, en général physique, pour progresser dans le domaine spirituel. L'expression mortification corporelle s'emploie habituellement dans le contexte de la religion catholique, où cette pratique a été abondamment thématisée, mais au sein de la plupart des religions, on retrouve des pratiques de mortification et plus généralement d'ascétisme. C'est quand même étonnant de se dire, nous qui sommes la religion du corps, nous sommes le corps du Christ, c'est Dieu qui s'est incarné, nous sommes créatures de Dieu, c'est Dieu qui a voulu notre corps, c'est lui qui nous a façonnés, et on le malmène si fort. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait ajustées. Il faut quand même entendre que c'est en vue de progresser dans le domaine spirituel. Une autre définition, le terme de mortification et le verbe mortifier, qui lui est associé, viennent du latin mortificare, littéralement faire mourir. Et dans la langue courante, le mot signifie une humiliation ou une contrariété, alors ce qui est assez étonnant dans la définition, imposée par quelqu'un. Imposée à quelqu'un. Mais voilà, tous les grands spirituels, de fait, ont vécu ça à un moment donné, mais c'est toujours une démarche intérieure. Ça ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas quelqu'un qui dit, tu vois. Quand on prend les synonymes, on entend pénitence, punition, contrition, réparation, humiliation. C'est lourd, hein? C'est lourd. Et c'est vrai qu'on va même entendre des textes de Saint Vincent, parfois sur l'humiliation, qui sont vraiment hard. Parce qu'il dit faut souhaiter être humilié parce que c'est la meilleure manière d'avancer sur l'humilité. Ouais, je veux bien, mais enfin. Mais ce qui est grave avec ce genre de synonyme, c'est qu'on donne une vision très négative de Dieu. C'est style Dieu père fouettard. C'est celui qui nous surveille. Celui qu'on a intérêt à marcher droit si on ne veut pas se prendre un coup derrière les oreilles. Et c'est tout le contraire de l'enseignement de l'Évangile. L'Évangile, Jésus dira, apprenez de moi que je suis humble et doux, enfin doux et humble de cœur. C'est la douceur qu'il veut. Non pas le sacrifice, mais la miséricorde. Et donc ça va nous demander la mortification, peut-être à enlever des aspects de notre conception de Dieu qui sont éloignés de l'Évangile. Et j'avais lu un jour dans un gros livre là, sur les premiers siècles, qu'en fin de compte, sur la question de la sexualité, de la relation au corps, les premiers siècles, l'Église était très tranquille avec ça. Et ça a été au moment des invasions barbares, enfin ceux qu'on a appelés hein, barbares. alors eux, c'était très très strict. Ça n'avait rien à voir avec la religion chrétienne. Et par exemple, si on mettait la main sur le bras d'une femme, c'était 20 sous. Si on le mettait sur les peaux, c'était 40 sous. Enfin, il y avait toute une tarification comme ça. C'était phénoménal, oui. Les barbares. Et petit à petit, l'Église catholique s'est laissée un peu imprégnée par ça. Et puis après, malheureusement, elle a pris un peu le relais un peu trop. Bon. C'est intéressant quand même de revisiter de temps en temps notre histoire. Alors c'est vrai que le synonyme ascèse, aujourd'hui ça passe mieux. Et il y a plein de propositions qui sont faites actuellement, dans plein de groupes. Même dans le journal La Croix, il y avait même un article sur ces nouveaux gourous qui vous promettent monts et merveilles si vous suivez bien toutes leurs conditions. Mais même dans le monde sportif, regardez l'exigence, ne serait-ce qu'alimentaire, des grands sportifs, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils font attention. Et puis chaque année, les pauvres filles, avant d'aller à la plage. Hein? Ben oui, il faut faire le régime, hein? S'il faut rentrer dans les maillots, hein? Et on arrive dans une ascèse qu'on subit, parce que là, il y a presque la dictature de la société qui nous impose qu'on doit être comme ceci ou comme cela. Et alors là, c'est de la mortification, hein? Il faut mourir à une certaine image de... C'est assez bizarre. C'est que c'est repris par... Il y a même certains qui vous proposent des retraites où il y a une semaine de jeûne. Pendant une semaine, tu ne manges pas. Par contre, tu payes très cher. C'est quand même étonnant. Tu n'as rien à payer, tu n'as pas de cuisinière. Il faut quand même payer. Par contre, ce qui est très important dans ce travail de la mortification qu'on va voir là avec Saint Vincent, quel est le but? Quel est le sens? J'ai des efforts à faire sur moi. Quel est le but? Quel est le sens? De fait, avant, il y avait presque, il fallait souffrir pour souffrir. Le Christ avait souffert en croix, donc il fallait que je m'unisse au Christ souffrant, et donc c'était bien si je souffrais. Enfin, il y a un côté masochiste là derrière qui est pas ajusté. Alors, de fait, quand on est en souffrance, on peut s'unir au Christ. Voilà. Mais il n'y a jamais à rechercher de la souffrance. Et Saint Vincent va très fortement appuyer là-dessus. D'ailleurs, il dira, parce que voilà, dans le monde religieux, il y en a qui essayaient de l'ascèse, enfin, de la mortification un peu bizarre. Et lui, il dit non, la vraie religion, oserais-je dire, c'est chez les pauvres de la campagne. Parce qu'eux, ils souffrent au quotidien, ils mangeaient peu, ils avaient des conditions de vie qui étaient terribles. Il dit voilà, ça c'est la mortification. Parce qu'ils ne la cherchent pas, ils assument leur réalité. Ce qui est quand même peut-être intéressant aussi dans la mortification, et quand on regarde le Christ en passion, j'aime bien faire réfléchir les jeunes sur la question de la passion. C'est quoi la passion? Ah, c'est quelque chose de super. Alors, à un moment, ils viennent avec la question des supporters d'un football, de leur équipe de foot. Alors là, ils sont à fond, ils sont vraiment passionnés. C'est-à-dire qu'il y a un surplus d'amour. On est accro à ça, quoi. Donc la passion, c'est quelque chose de bon. C'est de l'amour. Plus, plus, plus. Et je leur dis après, ben oui, mais nous, symbole de la passion, on a la croix du Christ. Ah, c'est un engin de torture avant d'amener à la mort. Et le mot passion, le verbe, c'est pâtir. Et pâtir veut dire souffrir. Et la compassion, c'est souffrir avec. Étonnant. Mais du coup, on peut comprendre que le Christ a été capable de souffrir par amour pour nous. C'est ça le fond. Quelle est ma relation au Christ? Pour Saint Vincent, c'est très clair, la mortification n'est qu'un moyen, jamais un objectif, jamais un but. Ce n'est qu'un moyen pour pouvoir tendre vers notre idéal. Et notre idéal, c'est quoi? Je vous l'ai dit la dernière fois, maintenant sur l'humilité, c'est tendre vers la sainteté. Ah! Ouh! Est-ce que vous avez prié pour devenir un peu plus saint? Et le chemin de sainteté, le premier obstacle, c'est lutter contre l'orgueil. Enfin, l'orgueil est là comme obstacle. Et donc la mortification va surtout travailler la question de l'orgueil. La volonté de l'ego de prendre toute la place. Car ça, c'est un amour mal placé vis-à-vis de soi. Et puis, c'est un autre moyen aussi très fort chez Saint Vincent, vous le verrez dans les textes. C'est un moyen pour apprendre à supporter l'autre. Maintenant, dans le domaine psychologique, on fait assez facilement la différence entre le moi et le soi. Le moi, c'est justement l'ego qui nous envahit, qui nous empêche d'être vraiment. Et le soi, c'est l'être profond. En termes chrétiens, si on fait un peu rapide, on peut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite. Donc on a à lutter contre le moi envahissant pour laisser davantage de place à l'Esprit Saint en soi. Alors je vais vous proposer comme premier temps de prière de partir avec un psaume que je lirai seul, tout doucement, on va se mettre en méditation. Mais ça va être assez étonnant parce que c'est un psaume qui est écrit par un homme qui est en combat avec des adversaires. Il fait partie, c'est le psaume 34, qui fait partie des psaumes qu'on appelle imprécatoires. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de venir tuer l'adversaire. C'est des paroles assez violentes, et on ne les dit même pas en liturgie, parce que justement, ça ne fait pas, entre guillemets, correct. Donc en liturgie, on ne veut être que correct, et c'est un peu dommage. Parce que c'est intéressant de se dire, ben, dans des combats, oui, j'ai besoin de la force de Dieu pour mener le combat. On a peut-être oublié, ces quelques dernières décennies, que le Christ est vraiment venu pour le combat. Et un combat mortel, puisqu'il va mettre la mort à, mort. Donc, quand vous allez entendre le psaume, je vais un peu le décortiquer avant de rentrer dans la méditation, mais ne cherchez pas vos ennemis extérieurs, ça va être l'ennemi intérieur au fond de soi. C'est un combat vis-à-vis de soi-même. Mais la différence entre le moi et le soi. D'accord ? Virer tout ce qui nous tire vers le fond. Vous avez vu, quand on a travaillé l'humilité, on a du mal à reconnaître qu'on est l'être étonnant, que je suis une merveille et tout ça. Ça, on a du mal. C'est parce qu'on a toujours des éléments un peu négatifs en nous. Alors le psaume, c'est un monologue du psalmiste qui s'adresse à Dieu, qui lui demande des choses particulièrement vis-à-vis de ses adversaires. Donc quand vous allez écouter le psaume qui va défiler tout doucement, je prendrai mon temps, à vous d'aller de vous laisser guider par vous-même. Moi je ne serai qu'un fil, le psaume qui sera là. Mais vous aurez à vous laisser aller. Si vous partez loin et que vous ne m'écoutez plus, ce n'est pas grave. C'est écouter là où il y a votre combat. Voilà, donc on va entendre dans ce psaume « Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier, lève-toi pour me défendre. » Dès le départ, vous pourrez entendre que le priant fait confiance au Seigneur. Il lui demande son aide pour sortir de la situation mauvaise dans laquelle il est. Il appelle Dieu au combat. Parle et dis-moi, je suis ton salut. Est-ce que je suis capable ? Je reconnais au fond de moi que j'ai besoin d'entendre des paroles de soutien. Qu'ils soient humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie. Alors quand vous entendrez cela, n'oubliez pas que nous sommes dans un combat contre ceux qui nous tirent intérieurement vers le fond. Et vous comprenez qu'il n'y a pas à tergiverser avec ces pensées mauvaises qui me dénigrent. Il y a de la radicalité dans le combat. Vous avez vu, à chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un qui est malade, qui est possédé, qui a un démon, Jésus, il est très clair, tais-toi. Dehors. C'est tout. Il ne discute pas avec le mal. C'est peut-être l'erreur de Ève qui a parlé. Et dès qu'on commence à parler avec le mal, lui, il nous embobine et on se fait avoir. Donc, il faut oser de la radicalité. Dans ce désastre, qu'il succombe. On a été éduqué, il fallait être gentil. Vous savez que gentil n'est pas dans la Bible ? C'est fou ça. Et on a réduit parfois l'éducation chrétienne à un système, l'évangile à un système éducatif. Il faut être bien gentil. Et bien là, il nous amène à vraiment être un vocabulaire plus dur. Parce que notre travail, notre mission, c'est d'éradiquer le mal qui est en nous. Un peu plus loin, il dira, pour moi, le Seigneur sera ma joie et son salut mon allégresse. C'est intéressant parce qu'au milieu du combat, il reprend force, il reprend souffle, il se rappelle quel est l'objectif. C'est ça qu'il faut viser dans la méditation qu'on va avoir dans un instant. Et du coup, c'est accepter de se laisser mener par l'Esprit du Christ. Des inconnus m'interrogent. pourra peut-être se poser la question, d'où me viennent donc ces questions sur moi-même qui n'ont aucun fondement, si ce n'est que du mal lui-même, avec tous ces raisonnements et dans lesquels je me rentre dans une spirale. J'ai à les rejeter et non pas à les écouter. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Quand ils étaient malades, je m'habillais d'un sac. Peut-être qu'il peut être intéressant et important de se rappeler tout ce que nous avons fait de bon pour tendre vers la sainteté de Dieu. Parce que parfois, quand on est pris dans le mal, on a l'impression qu'on n'a rien fait de bien dans notre vie, hein, quand on est parfois dans des épreuves. Mais savoir se remémorer les bonnes choses, pour dire si, je suis bien sur le chemin de Dieu. Grinçant des dents contre moi. Là, je prendrai le temps de repérer les ennemis qui rôdent encore autour de moi. Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour défendre et juger ma cause. Vous voyez, le croyant n'a pas peur de crier très fort, voire même de le secouer, de lui dire mais qu'il a besoin de lui. Je suis assez étonné parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles prient beaucoup pour leur famille, pour leur entourage, pour les gens qui vont mal, et tout ça, mais qu'elles ne prient jamais pour elles-mêmes. Bon, c'est bien de vouloir prier pour les autres, mais si je ne prie jamais pour moi, ça veut dire que j'ai besoin de rien. Il faut avoir l'humilité de dire oui, j'ai besoin de prière. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oser lui demander des choses pour soi et non pas se croire complètement indépendant et ne pas avoir besoin du Christ. Et puis on verra que le psaume se termine dans la confiance absolue, dans l'espérance que Dieu vaincra tous mes adversaires. Et du coup, on pourra être à la joie.
On va se laisser porter par une musique, et puis on va se mettre à se laisser porter par la prière, par le psalmiste.
Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier. Lève-toi pour me défendre. Brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. Parle. Et dis-moi, je suis ton salut. Qu'ils soient humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie. Qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui veulent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille dans le vent, lorsque l'ange du Seigneur les balayera. Que leur chemin soit obscur et glissant, lorsque l'ange du Seigneur les chassera. Sans raison, ils ont tendu leur filet, et sans raison, creusé un trou pour me perdre. Qu'un désastre imprévu les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché, et dans ce désastre, qu'ils succombent. Pour moi, le Seigneur sera ma joie et son salut mon allégresse. De tout mon être, je dirai : qui est comme toi, Seigneur, pour arracher un pauvre à plus fort que lui ? un pauvre, un malheureux à qui le dépouille. Des témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien. Je suis un homme isolé. Quand ils étaient malades, je m'habillais d'un sac. Je m'épuisais à jeûner. Sans cesse revenait ma prière. Comme pour un frère, un ami, j'allais et venais. Comme en deuil de ma mère, j'étais sombre et prostré. Si je faiblis, on rit, on s'attroupe. Des misérables s'attroupent contre moi. Des gens inconnus qui déchirent à grands cris. Ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasmes, grinçant des dents contre moi. Comment peux-tu voir cela, Seigneur? Tire ma vie de ce désastre. Délivre-moi de ces fauves. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Avec un peuple nombreux, je te louerai. Qu'il n'ait plus à rire de moi ceux qui me haïssent injustement et ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. Ils n'ont jamais une parole de paix. Ils calomnient les gens tranquilles du pays. La bouche large ouverte contre moi, ils disent « Voilà, nous y l'avons vu. » Tu as vu, Seigneur. Sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour défendre et juger ma cause. Juge-moi, Seigneur mon Dieu, selon ta justice. Qu'il n'ait plus à rire de moi. Qu'il ne pense pas, voilà, c'en est fait. Qu'il ne dise pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient tous humiliés, confondus, ceux qui riaient de mon malheur. Qu'ils soient déshonorés, couverts de honte, tous ceux qui triomphaient. À ceux qui voulaient pour moi la justice, rire et cris de joie. Ils diront sans fin, le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Moi je redirai ta justice et chaque jour ta louange. Psaume qu'on n'entend jamais à la messe, parce que c'est vrai qu'il est raide, mais c'est un bon soutien pour un vrai combat intérieur. Faut pas avoir peur de le prendre, c'est le psaume 34. Alors nous avons aussi à voir la manière dont on regarde la situation va totalement changer notre rapport à cette vertu de la mortification. Soit on la prend comme une obligation extérieure, une contrainte subie, soit nous savons profondément pourquoi nous faisons cet entraînement, et alors c'est avec joie qu'on est capable de le vivre. Peut-être connaissez-vous une petite parabole. C'est un homme qui arrive dans une carrière de pierre. Il y a trois hommes qui font exactement le même travail. Ils ont un marteau, un burin, et ils taillent la pierre pour la tailler. Enfin voilà, ils tapent pour la tailler. Et l'homme va voir le premier et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui répond « Moi, je tape la pierre. Enfin, je taille la pierre. » Bon. Il va voir le deuxième et dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Moi, je nourris ma famille. Hein? Il va voir le troisième et il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Moi, je construis une cathédrale. Quel regard posons-nous sur notre vie ? Et le regard qu'on y porte change quand même beaucoup de choses. J'ai une amie qui est maintenant conductrice de ligne de métro à Paris. Peut-être un truc très rébarbatif. Une manette, j'arrive, j'avance, j'arrête, j'avance, j'arrête. Ça peut être vraiment très... Et je lui avais dit, ben, tu peux regarder que sur les quais, là, c'est toi qui permets à des personnes de se déplacer. C'est toi qui vas permettre des retrouvailles. C'est toi qui permets d'aller au travail. Et ainsi de suite. Et du coup, vraiment, pour elle, maintenant, c'est son moteur. Elle est heureuse de faire ce métier-là. Voilà. Comment je regarde ce que je vis. Alors, ce qui peut rendre un peu difficile cet entraînement à la mortification, c'est l'esprit de notre société qui nous propose toujours d'être dans l'oisiveté. Hein? Et puis, parce que je le vaux bien, hein, j'ai le droit quand même un petit peu plus ceci, un petit peu plus cela. Hein, il y a un monsieur plus dans ce domaine-là qui... Voilà. Mais c'est un bien-être éphémère. Et puis, on a aussi dans notre esprit, le lundi matin, on se dit, ah, vivement vendredi soir. Quand on termine des vacances, vivement les prochaines vacances. Quand ça fait quelques années qu'on est au travail, on dit « Ah, vivement la retraite !» Bon, alors aujourd'hui, on recule. Mais c'est fou parce que à travers ça, on est en train de dire « Vivre, c'est de ne rien faire. » C'est terrible. C'est terrible comme état d'esprit. Et de plus en plus, on apprend à être désassisté. Et j'ai une autre amie qui a eu un long arrêt de travail pour santé. Là, il y avait... Et au bout de quand même plusieurs mois, elle a repris. Elle a dit « Heureusement que j'ai repris le travail, parce que la procrastination a fait beaucoup de dégâts en moi. » Procrastination, c'est que je remets au lendemain, j'ai le temps, je verrai plus tard. Hein? Et elle dit oh, « Même quand je serai à la retraite, il va falloir vraiment que je la prépare. » Parce qu'on peut être complètement pris et ne plus rien faire de son quotidien. Or, ce qui nous rend heureux, c'est de faire quelque chose de notre vie. Et non pas de rien faire. Et je connais des gens, ils savent très très bien faire. Toute la journée, ils savent ne rien faire. Ils le font bien, ils font rien. Mais je vous assure, et ils sont débordés. Ils sont débordés, ils n'ont pas le temps. C'est phénoménal. Donc, la mortification, elle est là pour nous aider à nous défaire de tout ce qui nous empêche d'atteindre notre but, la sainteté. Je reviens là-dessus. Prends ça comme objectif de vie et c'est extraordinaire. Bien évidemment, derrière ça, la grande, grande question du but de la vie. Que faisons-nous ici sur Terre ? Bien évidemment, dans notre société, quand on pense avec tous les athées, enfin, ils disent qu'ils sont athées, si je pense que la vie c'est uniquement le cercueil, ben, c'est évident que autant profiter et puis tant pis pour le reste. Quand on est chrétien, bien évidemment, la mort ouvre à la vie éternelle. Je ne sais plus si je vous ai donné l'expression dans ma région natale, il y a un homme qui fait des enterrements là. Dans l'équipe de funérailles, et dit « Ah, je ne fais pas un enterrement, je fais un anciellement. » voilà, j'accompagne le défunt à la porte de Dieu. C'est extraordinaire, mais ça change tout. Ça change tout. Et avant, on avait une expression, je ne sais pas si les plus anciens le connaissaient, « Je n'ai qu'une âme qu'il me faut sauver. » Ah, mais quand même, c'est un grand classique. On le chantait même. Ah. Donc vous chantiez ça, et maintenant, enfin à un moment, là, dans les années 80, il y a eu une autre chanson, « On ira tous au paradis, tous les voleurs, toutes les bonnes sœurs, on ira. » Et à travers ça, alors on peut espérer qu'on soit tous au paradis, mais à travers ça, c'était sous-entendu, fais ce que tu veux de ta vie ici, ça n'a aucun impact avec ce qu'il va y avoir après. Sauf que ce n'est pas du tout, voilà, il y a la porte étroite, et puis il y a le Christ qui nous dit bien, ce que tu auras fait de bon ici, c'est ce qui va rester dans l'éternité. Avec le jugement de Matthieu 25, et ce qu'on t'aura fait de mauvais, ben, c'est perdu. Donc on a bien un lien entre notre vie ici et l'éternité. Manque de peau, ces petites chansons là, ça nous fait, bon allez, c'est pas la peine de faire effort, allons au plus simple. Mais Jésus nous dit bien, il y a la route large qui va à la perdition. Alors, vous savez quel est le code pour rentrer dans le paradis? Il y a un code. Parce que vous avez dit que le chemin il était comment? C'est même très étroit. Donc 13 plus 3 ça fait 16. Le code c'est 16. Bon, le Christ nous dit aussi qu'il faut que nous renoncions à nous-mêmes. Il faut renoncer à sa vie, porter sa croix et le suivre. Vous voyez, il faut aussi entendre cet évangile-là. Hein. Il nous plaît moins bien, mais pourtant, êtes-vous prêts à boire la coupe que je vais boire, dit-il à ses apôtres. Il y aura même un combat entre le père et le fils, la mère et la fille. On va être jugé et condamné. Voilà. Vivre le bien-être et l'harmonie. Oui, le Christ nous le propose. Mais il nous dit bien, je vais vous donner la paix. Mais non pas la paix du monde, mais ma paix. Là aussi, est-ce que je suis prêt à bien comprendre ce décalage-là? La paix du monde, c'est quoi? C'est laissez-moi tranquille. Venez pas me déranger. Alors que la paix du Christ, c'est accepter d'être dérangé. Mais de rester en paix. Parce que je suis sur le chemin de Dieu. Et n'oublions pas que d'un bout à l'autre de les évangiles, le Christ vient mener un combat, et encore une fois, un combat à mort. Et donc, la mortification, elle est là pour nous entraîner à ce combat-là. Il nous demande de participer à ce combat. On n'est pas des marionnettes, nous sommes ses partenaires. Saint Paul nous parle que nous sommes co-héritiers, co-responsables. Et donc, je participe à ce combat-là. Et le combat, l'entraînement du combat, c'est apprendre à aimer. Encore une fois, la sixième vertu, la charité. Alors, dans le domaine de l'effort, il y aura plusieurs fois là qu'on va reprendre, entendre deux dimensions. L'une sera plus sur le fait du renoncement et l'autre davantage sur le fait de produire des fruits, et entre autres les fruits de l'esprit. Je vais réfréner mes attentes égoïstes et pour davantage m'investir dans l'altruisme, l'attention à l'autre. N'oublions pas que le Christ nous invite à rester greffé au cep, qu'il est lui-même, afin de porter beaucoup de fruits. Et ce n'est pas la mortification pour la mortification, c'est la mortification pour porter du fruit. Alors les fruits de l'esprit, vous savez que vous pouvez les trouver en Galates 5, 22 et 23. Les voici. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà une première liste des fruits de l'esprit. Après, quand on regarde les autres écritures, il y en a plus que ça. Mais déjà intéressant d'avoir cela. Donc, ça peut être intéressant, tiens, dans ma semaine, à quel moment je porte tel ou tel fruit. Voilà, de les repérer. Et si, par exemple, des fois je suis un peu rude avec quelqu'un, ah, là on a entendu parler de la douceur. Et alors justement, pour la mortification, qu'est-ce que je dois travailler? Eh bien, les contraires de ces fruits-là, c'est-à-dire la haine ou le mépris, la tristesse, la discorde, l'impatience, être mauvais, l'ingratitude, l'aigreur, l'infidélité, la dureté, l'exagération. Bon, c'est quelques synonymes, enfin, synonymes opposés, je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà, on peut les développer aussi. Et du coup, au fur et à mesure que je travaille à écouter ce qui se passe en moi, comme sentiment, comme un truc qui tourne dans ma tête, je sais ce que je dois travailler. Alors, parfois, ça peut peut-être nous sembler lourd de dire « Ouais, mais il faut tout le temps que je sois vigilant, il faut tout le temps que je sois au taquet, aux aguets, de regarder ça, et il faut que je fasse ça. » Si je le fais par obligation, c'est déjà perdu. Saint Paul le dit, hein, « J'aurais beau... » On l'a chanté, je crois, la semaine dernière. Hein, « J'aurais beau faire ceci, cela, j'aurais beau faire tout ce qu'il faut. » S'il me manque l'amour, ça ne vaut rien. Faire quelque chose par obligation, parce que je dois le faire, il manque l'essentiel. Et Saint Vincent, il a beaucoup de textes là-dessus, sur la charité, surtout avec les filles de la charité, pour dire, voilà, rendre service aux pauvres, c'est bien, mais c'est plus que ça. Il faut le faire avec amour, avec délicatesse, avec attention, avec douceur. Et il nous invite aussi... La mortification, et c'est lui qui parle là, est indispensable pour agir non seulement avec le pauvre peuple, mais aussi avec les exercitants, c'était ceux qui se préparaient à être prêtres, les ordinants, les forçats, les esclaves. Voilà, il nous donne toute une liste. On peut entendre aussi dans ce combat, Saint-Pierre qui nous soutient, il nous dit « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie, résistez-lui avec la force de la foi. » Donc il y a une vigilance, je regarde. La mortification, c'est Saint Vincent qui nous le dit, en fin de compte, c'est une vertu qui nous permet d'accentuer les trois premières vertus. C'est-à-dire... travailler à harmoniser notre relation à Dieu, notre relation à soi et notre relation aux autres. Alors, je suppose que le mot « harmoniser » pour les musiciens, ça parle fort, ou les chanteurs. C'est-à-dire qu'il faut que je me mette au diapason des autres. C'est un travail permanent, puisque nous sommes tous uniques et que nous évoluons. Quelqu'un nous disait aussi que l'une des armes les plus puissantes contre les tentations, c'est la connaissance de soi-même. Saint Vincent nous dit en fin de compte que plus on cède à la nature, plus elle exige. C'est-à-dire que si à un moment je dis, oh, je vais manger, admettons le coup de la gourmandise, bon, je mange un petit peu aujourd'hui, allez, hein, j'ai le droit de me faire une petite pâtisserie. Puis le lendemain, je vais encore prendre une, puis encore une, puis encore une. Puis petit à petit, ben, on n'a plus de discipline, quoi. Hein? Donc la nature prend toujours le dessus. Alors là, j'ai une série de... Alors je ne vais pas vous donner les références des textes de Saint-Vincent, mais dans plein de conférences ou de lettres individuelles, voilà ce qu'il dit. Il faut se mortifier intérieurement et extérieurement. Cette mortification est celle des sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je porte en mon cœur? Et ainsi de suite. La question de la langue, mortifier les passions, les aises, la volonté, la mémoire, le savoir, l'intelligence, le jugement propre. Voilà, il travaille beaucoup de ça. Et saint François de Sales, qui était son grand ami, qui l'a beaucoup marqué dans ses premières années, il disait, il faut toujours passer par là. Il se faut attacher à la croix de notre Sauveur, la méditer et porter en nous sa mortification. Il n'y a point d'autre chemin pour aller au ciel. Notre Seigneur y est passé le premier. Et alors, vous verrez dans les textes que je vous laisse, saint Vincent, il prend une image qui est fort intéressante. Il dit, il faut avoir le couteau du vigneron. Aujourd'hui, on dirait plutôt le sécateur. Pour couper toutes les branches qui font des belles branches avec des belles feuilles, mais ça ne porte pas de fruits. Donc, il faut couper, il faut tailler la vigne pour garder là où il va y avoir la grappe. C'est intéressant comme image. Sans cesse avoir le couteau de la mortification à la main pour être prêt au cas où. Du coup, si on arrive à tout cela, si on travaille sur soi, on va porter des fruits à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va faire grandir le royaume de Dieu. C'est ça l'objectif. Et du coup, on va se prendre le temps de prier avec un chant, je pense que vous connaissez bien.
Votre relation avec Internet peut être compliquée. Êtes-vous en sécurité? Vous donnez...
Comme d'habitude. Ah, par contre, je ne l'ai pas mis. Je trouve que c'est bon de reprendre des chants pour prier et puis pour dire, pour nous fortifier. Peut-être qu'on ne fait pas assez attention, mais il y a vraiment toute une évangélisation à travers le chant. Et puis pour nous soutenir par la prière aussi, sur notre chemin. Voilà, la mortification, ça peut être un peu le monsieur plus de notre vie spirituelle. En rajouter un petit peu dans chacune de nos relations. Et pour approfondir un petit peu plus ces trois relations, donc les trois premières vertus, la relation à Dieu d'abord. Je reprends encore l'idée des supporters de football. Je suis étonné comme ils connaissent vachement bien leur équipe. Ils connaissent chaque nom, ils connaissent l'histoire de chacun des footballeurs. Dans quel club il a fait, où c'est qu'il a marqué des points, dans quelle sélection il a fait, extraordinaire. Si je vous demandais les 12 noms des apôtres, et qui a dit quoi à Jésus, et comment il a repris, puis d'où il vient. Est-ce que nous sommes vraiment passionnés de l'équipe de notre Jésus ? Alors, j'ai eu pas mal dans mes autres missions avant d'arriver dans les Landes. J'animais des fois dans des paroisses, un peu des temps comme ce soir, puis j'invitais à discuter. Je demandais aux gens, puisque c'était les fervents de la paroisse, bien sûr, comme ce soir, je leur demandais quel est le passage biblique qui vous marque le plus, qui vous nourrit. Alors à 90%, c'était à « aimez-vous les uns les autres ». C'est bien, mais excusez-moi, c'est un peu court. C'est un peu la tarte à la crème, c'est passe-partout. Et puis d'abord, la citation n'est pas complète. Merci. Comme je vous ai aimé. Alors là, ça change tout. Là, ça change tout. Mais il y a plein d'autres passages qui nous montrent comment Jésus nous dit qu'il faut aimer. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Hein. Donnez sans redemander. Je suis étonné aussi des fois des chrétiens qui me disent « Oh, il n'y a jamais personne qui est revenu des morts. » Enfin, qu'un athée dise ça, ça me va. Mais qu'un chrétien dise ça, et si je veux vraiment travailler ma relation à Dieu, il faut que je le connaisse. Une autre fois, dans une autre paroisse, c'était aussi pour le temps de carême, et je leur avais dit, tiens, je vais vous proposer, je m'étais mis en position de non-croyant qui n'y connaissait rien à la religion. Il dit, je vous propose 5 thèmes et vous allez avoir à me donner un argument. Moi, je suis un jeune, je n'y connais rien. Vous me donnez un argument chacun pour essayer de me convaincre là-dessus. J'avais parlé du Dieu créateur. Ah, parce qu'il paraît que c'est Dieu qui a tout fait. Dites-moi comment ça marche dans votre relation à Dieu. Ensuite, je leur ai demandé, à ce qu'il paraît que vous parlez, que vous l'entendez, qu'il vous répond, je ne sais pas, parlez-moi de la prière. Ensuite, je ne me rappelle plus tout à fait le troisième, bon, il y avait aussi encore des réponses. Et ensuite, je lui ai dit, à ce qu'il paraît qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Aucune réponse. C'est fou, hein? C'est le spécifique de la foi. Ah oui, il y a celui-là et puis celui d'après. À ce qu'il paraît qu'il vous sauve, mais au fait, il vous sauve de quoi ? Incapable de l'expliquer. Avant, c'était facile, il y avait l'enfer. Je veux pas dire qu'il n'y est pas, mais... voilà, ah, oui, oui. Nous avons à retravailler fortement qu'est-ce que ça veut dire la foi en la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être sauvé par le Christ? C'est pas simplement qu'il me sort de la mort comme un sauveteur. Deux fois, j'ai failli me noyer à l'océan, il y a pas mal d'années maintenant. Deux fois, les sauveteurs sont venus me chercher. Ce ne sont pas des sauveurs, ce sont des sauveteurs. C'est-à-dire qu'ils m'ont empêché de mourir. Mais être sauvé, c'est bien plus qu'être empêché de mourir. Donc on ne peut pas le développer maintenant, mais il y aurait à creuser ça. Qu'est-ce que je dis de ma foi? Parce que si on loupe ça, tout est foutu, quoi. Et alors du coup, ça peut être sur la question de la mortification. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je suis prêt à prendre du temps pour mieux découvrir le Seigneur? Est-ce que j'ai déjà lu un évangile d'un bout à l'autre? Ou uniquement celui du dimanche? Est-ce que j'ai pris de temps en temps les synoptiques? Comment ça se fait que Matthieu, Marc et Luc ne disent pas tout à fait les mêmes choses? Il y a toujours à creuser. Est-ce que je suis passionné de ça? Est-ce que je crois fondamentalement que la parole, ce n'est pas un bouquin? La parole, ce n'est pas un vieux texte. La parole, c'est réellement la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à moi au moment où je le lis. Comment je tisse des liens là-dessus? Ça, c'est un travail de mortification. Est-ce que j'aime rester en silence dans sa création, peut-être, en me promenant? Bon, vous voyez bien, il y a tout ça un peu qui peut se faire. Ensuite, la relation à soi. Alors, je voulais vous dire qu'il faut se mortifier, mais encore une fois, se mortifier pour son propre bien-être, mais dans le sens vraiment fort du terme. Il y a une amie qui m'évoque une de ses voisines qui a même pas 30 ans. Elle a ce qu'on appelle le burn-out. C'est marrant, c'est maladie à la mode de temps en temps. Avant c'était des dépressions, maintenant c'est du burn-out. Ça fait bien ce qui paraît. Bon, excusez-moi, je taquine un peu. Mais... C'est-à-dire qu'on est vraiment en surplus, on n'y arrive plus. Mais c'est très grave, hein. C'est quand même... voilà, je le dis un peu avec d'humour, mais... Voilà. Et cette jeune femme disait qu'elle est rentrée dans un centre pour être au repos, des centres de repos, et elle aura été très heureuse parce qu'elle prend le temps de marcher dans la nature. Ben oui, mais est-ce que tu as besoin d'attendre d'être en burn-out pour aller marcher? Oui, c'est ça. Elle n'avait pas conscience qu'elle en avait besoin. On croit toujours qu'on va être capable, qu'on va être capable. Donc, la mortification première sur la question de l'humilité, oui, je reconnais humblement que j'ai un certain besoin. J'ai un besoin de repos, j'ai un besoin d'aller me promener, j'ai un besoin d'aller me nourrir de la nature. Et puis chacun va trouver ses besoins propres. Il y en a certains, ça va être de lire ou je ne sais trop quoi. Est-ce que je sais prendre du temps pour moi pour un bon équilibre? Au début, quand Mère Teresa s'est mise à se mettre vraiment au service des plus pauvres, elle s'est exténuée. Et il y a une infirmière qui l'a, une autre sœur infirmière qui n'est pas de sa congrégation, qui lui a dit, si vous voulez vous mettre au service des pauvres, il y a une exigence, un jour par semaine, obligatoirement, c'est en repos complet. Voilà. Si vous n'avez pas cette exigence-là, vous ne ferez rien de bon. Et elle a tenu ça, ils le tiennent encore aujourd'hui. Donc du coup, peut-être se poser cette question-là, de quoi as-tu besoin pour ton équilibre personnel? Et figurez-vous qu'au moment où j'ai écrit ça, je m'étais réveillé un peu de bonne heure, il était 6h du matin, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas été marcher dans le parc, au berceau, et du coup j'ai arrêté d'écrire, et j'ai été faire ma marche. Voilà, des fois il faut oser prendre des choses. Peut-être que vous savez que, vous savez, souvent dans les couples, à partir d'un certain âge, ou quand il y en a un qui est de deux qui est malade, ou dans la famille, tout simplement, des fois c'est les grands-parents qu'on accompagne, donc il y en a un qui est malade, l'autre il est ce qu'on appelle aidant. Donc on aide au départ tranquillement, Puis plus ça va, plus on aide de plus en plus. Et après, ça devient très chronophage, mais plus que chronophage. Et il y a un tiers des aidants qui décèdent avant les aider. Oui, c'est énorme. Mais parce que, encore une fois, mais non, ça va. Non, puis de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Ben oui, mais une fois quand tu seras mort, on pourra faire autrement quand même. Donc vous voyez, cette vigilance, c'est très bien d'aider, mais je dois avoir une relation juste avec moi-même aussi. Même Dieu, le septième jour, il s'est reposé. Alors quand même, on n'est pas plus fort que Dieu. Il y a en chacun de nous Marthe et Marie. Où est mon équilibre entre les deux? Les deux avoir une bonne place. Et il faut que je tienne les deux. Alors parfois, on peut être un peu plus Marie, parfois on peut être un peu plus Marthe, mais vigilance. On pourrait aussi, pour travailler la mortification sur soi, reprendre les trois tentations du Christ qu'on a évoquées la semaine dernière. C'est-à-dire la question de l'avoir, du pouvoir et du valoir. Est-ce que j'ai toujours besoin d'acheter un peu plus? J'achète parce qu'on me sollicite, mais si je ne regardais pas les pubs, si je ne regardais pas les vitrines, je n'aurais même pas besoin. Est-ce que j'ai toujours besoin d'être là à mener les affaires et tout ça? Est-ce que je peux laisser le pouvoir à l'autre, l'initiative à l'autre? Alors ces trois tentations, c'est autant sur la vertu d'humilité que la vertu de douceur. On peut aussi les reprendre. Et est-ce que je laisse de la place à l'autre? Ou est-ce que j'aimerais toujours qu'il fasse comme moi j'ai décidé? Combien de fois on le voit, hein? Est-ce que je peux apprendre à ne pas couper la parole à l'autre? Moi, je suis toujours étonné de voir il y a 5 personnes qui sont ensemble, il y en a au moins 3 qui parlent. Et qui c'est qui écoute? C'est fou, quoi. C'est fou. Et la mortification, elle est là, oui. Avec Saint Vincent, c'est des choses simples, toujours très, très concrètes, toujours au ras des pâquerettes. C'est pas des choses... Non, non. Si tu veux atteindre le ciel, occupe-toi des pâquerettes. Voilà, la relation aux autres, la douceur, bon, je peux écouter, hein. Est-ce qu'il y a encore une fois, on l'a vu tout à l'heure avec les fruits de l'esprit, mais est-ce qu'il y a de la jalousie en moi, de la rivalité, de l'aigreur, de la rancœur, de la médisance? À chaque fois, tout ça, c'est le mal qui cherche à nous diviser. Alors sur cette question-là, quand il y a quelque chose, un conflit avec quelqu'un, Saint Vincent, il est assez radical. Il demande aux confrères, pour ne pas entrer en conflit justement, de toujours considérer que l'autre a un meilleur point de vue que soi. Et si vraiment je suis rentré en conflit avec quelqu'un, je ne vais pas régler tout de suite. Je vais laisser passer la nuit. Comme on dit, la nuit porte conseil. Je vais apaiser la colère. Donc, je vais pouvoir retirer un peu le trop-plein d'émotions et de sentiments. Et puis, je vais pouvoir garder le fond du conflit avec l'autre. Et donc, du coup, je vais pouvoir parler plus sereinement, plus paisiblement. Et je vais pouvoir faire un travail de réconciliation. Ça peut être aussi, tout simplement, sur la question de la relation aux autres, de reprendre la liste de qualités que je vous ai proposé de surligner. Et ces qualités-là, est-ce que je suis capable vraiment de les mettre au service des autres? Et toujours en vue de fait du fameux bien commun. Travail de mortification en positif, hein. Ah, j'ai bien une idée, tout ça, j'aimerais bien faire, mais j'ose pas le dire, j'ose pas, j'ai un peu peur. Eh ben, tu vas mortifier ta peur. Donc tu fais mourir ta peur et puis tu oses aller. Ou alors si j'ai une tendance un peu trop vite à critiquer les autres, ben, du coup je vais faire une critique positive. C'est-à-dire cette personne que j'ai du mal avec elle, m'efforcer à trouver quelque chose de bien chez elle. Et du coup, ça amène à changer le regard. Et d'ennemi, elle va devenir ma sœur ou mon frère, selon qui c'est. N'oublions jamais que nous avons à être des frères et des sœurs au service des autres. Et du coup, nous allons prendre un deuxième temps de prière par le chant. Que vous connaissez aussi. En espérant que ça marchera mieux tout à l'heure. Tout à l'heure, tu t'es levé et ça a marché. Ah, quel bien. Oui, ça mouline, ça marche pas ce soir. Désolé.
Thank you.
fait être bien humble pour travailler à la moisson du Seigneur. J'aime aussi évoquer cela chez nous, chez les Lazaristes, les Filles de la Charité. On a une prière pour les vocations où il y a plein de références de la Bible. Et on parle que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et je vous évoque déjà la cinquième vertu qui sera le zèle. Je suis étonné que souvent, quand on dit qu'on veut être missionnaire, il faut labourer, il faut hercher, il faut défricher, et on dit que c'est dur et tout ça. Or, Jésus dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. La moisson, c'est le temps de la récolte. C'est le temps agréable. C'est intéressant d'entendre ça, même avec la vertu de mortification. Oui, ça peut être dur, et le temps de la moisson, moi qui suis fils de paysan, je sais que le temps de la moisson, c'est costaud, mais c'est bon. C'est un temps agréable. Donc oui, il peut y avoir des choses difficiles à vivre, mais quand on sait pourquoi on les fait, vraiment ça transcende. Et je voudrais terminer notre petite intervention avec l'exemple encore d'une jeune. Elle s'appelle Sabine, et je l'ai connue, maintenant ça remonte un peu à loin, mais elle était lycéenne à l'époque, et elle était en fauteuil roulant. Donc voilà, elle ne pouvait pas se débrouiller par elle-même. Elle ne supportait pas un regard de pitié sur elle. Et à chaque fois, elle réagissait très très fort. « Oh, comme ça, je suis là !» Elle rentrait dedans assez fortement. Bon, et on essayait de lui dire, oui, mais peut-être qu'elle essaye, une personne qui est attendrie, une personne qui a de la compassion pour toi. Bon. Et un jour, elle va à Lourdes, en pèlerinage, avec l'hospitalité. Mais non pas du côté malade, parce que bien qu'elle était en fauteuil, avec ses mains, elle pouvait faire quand même des choses. Donc, elle se met du côté des hospitaliers. Et elle va rendre des menus services dans les chambres, en tant que lycéenne. Et un moment, elle rentre dans une chambre, et là, il y a un homme qui est totalement grabataire. Et là, elle ressent de la pitié pour lui. Et ça lui a fait une déflagration. Parce que elle, qui avait tant de fois rejeté ce sentiment de pitié qu'elle pouvait ressentir de la part des gens, là que c'est elle qui le vivait, elle a compris que c'était de l'amour. Et elle a compris qu'elle était passée souvent à côté de quelque chose de très bon. Je dis ça parce que le dernier petit point sur la commortification, souvent on veut donner, mais est-ce que, encore une fois, je suis prêt à recevoir? Est-ce que je suis prêt à être complètement retourné? Est-ce que je suis prêt à me convertir selon ce que le Seigneur va me mettre sur la route? Ah, pas simple, hein? Voilà, toute notre vie est un long chemin de conversion, où le Seigneur nous invite à ressortir sans cesse de nos habitudes, parce que très souvent les habitudes deviennent des routines, et les routines, on s'ankylose, on se crispe, voilà, après ça marche plus bien. Voilà, je vous propose simplement de porter tout cela avec j'en avais oublié une aussi. Celle-là, on va la lire, mais vous me laisserez dire la première partie, comme ça on va la dire doucement, et je dirai la deuxième partie. C'est la prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine,
je mets l'amour.
Là où est l'offense,
je mets le pardon.
Là où est la discorde,
je mets l'union.
Là où est l'erreur,
je mets la vérité.
Là où est le doute,
que je mette la foi.
Là où est le désespoir,
que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé,
qu'à consoler,
à être compris,
qu'à comprendre,
à être aimé,
qu'à aimer,
car c'est en donnant, c'est en s'oubliant, c'est en pardonnant, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Et que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.